Donc, commençons maintenant avec vos questions. Et nous allons d'abord commencer par des questions très générales qui vont du coup nous servir un petit peu d'introduction. Ce sont des questions que nous posent des employeurs, notamment sur comment mettre en place le chômage partiel, qui peut en bénéficier, quand reçoit-on les indemnisations? Et même un employeur qui se demande s'il peut attendre le versement des indemnités pour pouvoir rémunérer ses salariés en chômage partiel. Donc, je vous laisse répondre à toutes ces questions, maître.
Merci. Alors, déjà, qui peut bénéficier donc de l'activité partielle? Alors, c'est tout employeur et toute entreprise en fait au sens large du thème, hein. Donc, ça veut dire société, association, toute entreprise en fait du secteur privé qui applique en fait le code du travail avec ses salariés. Ça a rien de nouveau, hein, puisque c'est même une circulaire de 2013 qui le rappelait déjà. Donc, quelle que soit la forme juridique de votre entreprise, vous pouvez donc accéder au dispositif de l'activité partielle. En revanche, je le rappelle quand même, c'est pas parce que en fait vous appliquez le code du travail que de facto vous êtes éligible au dispositif en fait de l'activité partielle et que vous pouvez l'appliquer comme bon vous semble. Non, en fait, il y a quand même deux cas qu'il faut rappeler en introduction. C'est le premier. Je parle en fait, hein, bien sûr, des circonstances exceptionnelles Covid-19. Hein. Eh bien, vous avez deux cas. Vous avez l'entreprise qui fait donc l'objet d'une obligation de fermeture du fait de l'arrêté du 15 mars 2020. Donc, je pense aux magasins de vente ou aux restaurants, par exemple. Donc là, pas de problème. Vous êtes éligible à l'activité partielle Covid-19. Et les entreprises dont l'activité, deuxième cas, est réduite en fait du fait du coronavirus. Donc ça veut dire que vous avez des difficultés d'approvisionnement, par exemple, des matières premières que vous devez avoir en fait qui n'arrivent pas à passer la frontière, par exemple, ou alors des baisses tout simplement de commandes. Bon, et là, vous pouvez potentiellement, et il faudra motiver votre demande, je vais y revenir un petit peu plus tard, pour voilà, effectuer votre demande en fait de dispositif d'activité partielle. Les démarches en fait, elles sont totalement dématérialisées, d'accord? Donc vous devez absolument passer par le portail du gouvernement, c'est le site internet activitépartielle.emploi.gouv. Et là en fait, en pratique, vous devez d'abord créer en fait votre profil entre guillemets pour avoir des identifiants. Et c'est une fois que vous aurez ces identifiants-là qu'ensuite vous pourrez faire votre demande via ce portail-là. Donc il faudra cocher, lorsque vous faites votre demande, il faudra bien cocher circonstances exceptionnelles Covid-19, parce que il y a bien cet encart-là qui est prévu dans ce cas-là. Et puis bien sûr, et là c'est extrêmement important, j'insiste là-dessus. Il faut motiver sa demande parce que même s'il y a à peu près que 2000 caractères, il faut quand même motiver sa demande parce que après il y aura des contrôles hein, de l'inspection du travail et de la directe. Donc il faut dire pourquoi moi en fait j'ai besoin de ce dispositif d'activité partielle. Donc pourquoi j'ai une activité voilà, pourquoi chez moi ça se manifeste en fait par voilà, une baisse d'activité, des difficultés d'approvisionnement, etc. Donc tout ça, il faut le dire, il faut le préciser. Vous avez ça aussi, il faut le préciser, jusqu'au 30 avril 2020 pour faire votre demande d'activité partielle. Et par rapport à la question qu'il y avait aussi, c'est que l'employeur doit verser aux salariés les indemnités pour les heures chômées. En fait, au moment habituel du salaire, il ne doit pas attendre d'avoir, lui, les allocations de l'emploi pour, en fait, verser les indemnités aux salariés. Pour le salarié, ça ne doit rien changer s'il est payé au mois le mois, il doit être payé à la même date, en fait, il doit percevoir ses indemnités, d'activité partielle. Ensuite, l'employeur percevra les allocations qui sont versées par l'État selon les heures chômées qu'il aura déclarées, qu'il doit faire donc chaque mois, et il y a à peu près un délai moyen de 12 jours, hein, pour percevoir les allocations entre la demande qui est faite sur le même portail, hein, ça se passe au même endroit. Voilà, donc vous faites votre demande et 12 jours après environ, vous avez les allocations de l'État qui vous sont versées.
Très bien, donc c'est assez rapide pour
Voilà,
recevoir
c'est assez
les
rapide.
indemnisations.
Ouais. Il y a une avance de trésorerie à faire, c'est sûr, mais après le remboursement arrive quand même assez vite.
Alors, il y a juste quelques auditeurs qui nous signalent qu'ils ont des problèmes de son. Est-ce que via le chat, certains autres utilisateurs pourraient nous dire s'ils nous entendent correctement? Alors, a priori, on me dit que y a aucun souci. Oui, il y a beaucoup de monde, merci à vous, qui me dit qu'il n'y a plus de problème de son du tout. Donc, c'est parfait.
Bon, tant
Nous
mieux.
poursuivons avec la question suivante, qui est assez technique, que se posent de nombreux chefs d'entreprise et RH. Pouvez-vous nous expliquer en détail le régime fiscal et social, et si possible en détaillant un petit peu les taux de l'indemnité de chômage partiel?
Ouais. Alors, du point de vue fiscal, il n'y a eu aucune exonération. C'est comme du salaire, c'est soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça, voilà, faut pas y échapper, c'est comme ça. D'ailleurs, sur le bulletin de paie des salariés, ils le verront, hein, puisqu'il y aura quand même le prélèvement à la source qui sera effectué sur les indemnités d'activité partielle. Hein. Ensuite, d'un point de vue régime social, là, vous avez une exonération totale sur les cotisations de sécurité sociale et les prélèvements alignés, c'est-à-dire cotisations chômage, retraite, AGS, etc. En fait, ça n'est soumis qu'à la CSG-CRDS. Alors, à des taux, en effet, qui sont à préciser. La CSG, c'est au taux de 6,20%. La CRDS au taux de 0,5%, ce qui nous fait un total de 6,70% sur une assiette de 98,25% après abattement en fait de 1,75% pour frais professionnels. Donc en tout, 6,70% sur une assiette de 98,25%.
Très bien, merci beaucoup. Et comment définir le prévisionnel lors de la demande de chômage partiel? Parce que les employeurs n'ont aucune garantie d'une
Ouais.
reprise d'activité et de quand exactement l'activité pourra reprendre normalement.
Ouais.
Et y a-t-il une durée maximale autorisée pour l'activité partielle?
Alors oui, il y a une durée maximale qui a d'ailleurs été allongée puisqu'à l'origine c'était 6 mois et elle est passée à 12 mois. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez faire une demande sur 1 an. Donc c'est quand même une période déjà importante. Ensuite, alors il y a deux cas de figure. Si vous avez une reprise préalable avant la durée prévisionnelle que vous avez indiquée, il n'y a pas de difficulté. Hein. Vous en enfermez simplement en fait la directe parce que c'est un maximum que vous avez qui vous a été octroyé. Si vous l'utilisez pas, j'irai tant mieux pour l'État et puis tant mieux pour vous aussi puisque ça veut dire que ça va mieux. En revanche, si vous n'avez pas déclaré assez, vous avez donc besoin de prolonger. À ce moment-là, il faut faire une nouvelle demande. Il faut faire une nouvelle demande d'activité partielle en expliquant, comme je vous l'ai dit en introduction, pourquoi vous avez toujours cette baisse, par exemple, d'activité, ou si vous êtes totalement fermé, pourquoi? Donc, et vous de solliciter à nouveau par rapport à l'instant T, à votre situation, au jour de la demande, en fait. Voilà ce qui justifie, en fait, cette prolongation, en fait, cette nouvelle demande. Mais il faut relancer, le process, en fait, de l'activité partielle.
Très bien. Pour la mise en place du chômage partiel, normalement, les élus du CSE doivent être informés. Est-ce qu'une simple information suffit ou il faut à tout prix demander l'avis des élus? Et donc, est-ce qu'il faut mettre en place une information-consultation?
Alors oui, il faut mettre en place une information consultation, puisqu'en fait, il faut recueillir l'avis du CSE. Et d'ailleurs, cet avis, il doit être joint à la demande d'activité partielle. Alors, si vous ne l'avez pas fait au moment de la demande, ce n'est pas grave, mais vous devez consulter en fait le CSE dans un délai de 2 mois maximum. Et de toute façon, il faudra joindre cet avis dans votre profil, entre guillemets, donc sur le portail en fait de l'activité partielle, il faudra ajouter l'avis du CSE. Donc c'est obligatoire si l'employeur évidemment est doté du CSE. Et donc c'est une information consultation et on doit bien indiquer les motifs de recours au CSE, hein, pour qu'il rende un avis éclairé, les motifs de recours, pourquoi on a besoin d'avoir recours à l'activité partielle, les catégories professionnelles qui sont concernées, les activités concernées, comment ça va se passer concrètement, si c'est une activité partielle totale, c'est-à-dire personne ne travaille, si en revanche on met en place un roulement, etc., quels sont les critères en fait pour chaque catégorie en fait de salariés.
Alors justement, il y a un élu qui nous demandait, enfin qui nous posait la question suivante. En tant qu'élu CSE, nous n'arrivons pas à savoir quels salariés sont touchés par l'activité partielle. Y a-t-il des lits d'entrave? Il semble également que certains salariés soient au chômage partiel et d'autres pas, alors qu'ils travaillent dans le même service. Est-ce que c'est légal?
Alors non, ça c'est pas légal parce qu'en fait, alors normalement c'est curieux parce que le CSE, s'il est consulté, s'il doit rendre un avis, il doit avoir tous les éléments. Donc c'est-à-dire il doit savoir qui va être, enfin quelle catégorie de salarié va être en chômage partiel et qui ne continuera à travailler normalement. Parce qu'il faut avoir quand même à l'esprit que l'activité partielle c'est un dispositif collectif. C'est-à-dire qu'on n'a pas à individualiser en fait les choses selon un tel ou un tel. On raisonne en fait par atelier ou service. Donc ça veut dire, par exemple, j'ai une société qui a un service administratif. Le service administratif a encore un petit peu de travail, notamment pour les payes, j'en sais rien. Bon. À ce moment-là, on peut prévoir une activité partielle, non pas totale, mais une réduction d'horaire pour l'entier service administratif. Mais à l'intérieur du service administratif, on ne doit pas dire un tel ne travaillera pas du tout, un tel travaillera un peu, etc. Non. À ce moment-là, on organise un roulement, mais tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une personne qui, enfin, les salariés qui vont travailler chacun leur tour 10 heures dans la semaine, ou alors une semaine sur deux, etc. Enfin, après, on imagine ce qu'on veut, mais on ne doit pas individualiser les choses. Et en revanche, par exemple, vous avez un autre service, un service production qui est complètement à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de commandes, etc. Là, pour le coup, on met tout le monde en activité partielle totale. C'est-à-dire qu'en gros, personne ne travaille. Donc, il faut raisonner, c'est important, par service et par atelier et non pas par individu. Parce que là, si vous voulez, l'incidence, elle est importante parce que… Eh bien, la paye n'est pas la même selon si on travaille ou pas, si on a une activité partielle ou pas, etc. L'indemnité n'est pas la même. Donc, il doit y avoir une égalité de traitement entre les salariés.
C'est très clair. Donc, pas de clientélisme au niveau
non.
du chômage partiel. Une autre question qui s'est posée, parce que la directe, il lui arrive de rendre des avis négatifs. Et là, c'est le cas dans cette entreprise. Et l'employeur se demande si, à l'issue de cet avis négatif et dans le cadre d'un nouveau dépôt de demande d'activité partielle, est-ce qu'il doit à nouveau consulter les élus du CSE?
Alors, déjà, si vous avez un refus, parce que… Aujourd'hui, quand même, le délai est très court. Hein. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, vous savez ou pas si vous avez, si c'est autorisé ou refusé. Bon. Il y a beaucoup d'autorisations aujourd'hui, mais il y aura des contrôles ensuite. Hein. Et si vous avez un refus express, généralement, c'est parce que vous n'avez pas bien motivé votre demande à l'origine. Vous n'avez pas bien expliqué pourquoi, ou soit vous l'avez bien expliqué, soit vous ne l'avez pas expliqué du tout. Pourquoi, en effet, vous avez recours, vous avez besoin de recourir à l'activité partielle. Donc, je reviens sur ce que j'avais dit en préambule, mais c'est quand même important d'insister là-dessus, c'est qu'il faut absolument motiver la demande. Ensuite, en effet, si vous avez un refus de la directe, rien ne vous empêche de proposer, de reformuler une nouvelle demande, mais à ce moment-là, vous devez de nouveau consulter le CSE, parce que quelque part, enfin, c'est une nouvelle demande, c'est un nouveau dossier, et le CSE, il doit rendre un avis par rapport aux nouveaux éléments qui auraient été présentés à la directe. Par exemple, si c'est sur la motivation, pourquoi j'ai recours donc au dispositif d'activité partielle. Je dois aussi l'expliquer au CSE. Peut-être aussi qu'il y aura des différences entre votre première demande sur les services qui travailleront pas ou ceux qui travailleront un petit peu, etc. Donc, il y aura peut-être des ajustements de fait dans le temps. Donc, tout ça, évidemment, le CSE, il doit le savoir, il doit être consulté une nouvelle fois. On reprend à zéro, en fait, hein. Voilà.
Alors, je vais vous poser une petite question bonus qui se pose quand même pas mal parmi nos internautes. Dans certaines entreprises, le CSE n'a pas été mis en place, parfois par manque de respect du calendrier ou par carence de candidats. Comment ça se passe, du coup?
Alors en fait, bon, normalement, hein, on le rappelle, il devait y avoir les élections plus tard au 31 décembre 2019. Alors, c'est sûr que ça peut poser une difficulté si aujourd'hui vous n'en avez pas, alors que vous auriez dû organiser les élections. Il n'empêche que ça, c'est donc ça ressort du questionnaire question-réponse en fait du ministère du Travail, qui est mis à jour assez régulièrement sur le site du ministère du Travail, dernièrement le 10 avril, et qui indique que à ce moment-là, il faut que l'employeur s'engage lorsqu'il fait la demande. En fait, d'activité partielle. Il faut aussi qu'ils s'engagent à organiser les sélections professionnelles dans un délai très court. Voilà. Donc, évidemment, aujourd'hui, on peut avoir des difficultés pour organiser des élections parce que les gens ne sont pas là, ils ne peuvent pas venir. Donc, soit on met en place, parce que c'est possible aussi par les nouvelles dispositions qui sont sorties, on met en place un vote à distance. Soit on attend le déconfinement, en fait, qu'on reprenne une activité normale, mais en tout cas, il ne faudra pas tarder parce qu'il y aura des contrôles de la directe. On en est sûr, ça a déjà été annoncé, donc il faudra être très vigilant là-dessus, il faut s'engager à organiser les élections dès que concrètement on pourra le faire. Voilà. Mais aujourd'hui, si vous n'avez pas de CSE alors que vous auriez dû en avoir, ça n'est pas bloquant par principe pour faire votre demande d'activité partielle. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Alors, on reste sur la thématique des élus et du chômage partiel. Est-ce qu'un élu peut être exempté du chômage partiel si la totalité de son service est placée en activité partielle et doit-il donner son accord?
Alors, là, pour le coup, il y a l'ordonnance du 27 mars 2020 qui est très clair sur le sujet et qui dit bien que l'activité partielle s'impose aux salariés protégés. Donc, on n'a pas besoin de l'accord du salarié protégé, dès lors évidemment que l'activité partielle, elle affecte soit l'entreprise entière, soit l'établissement ou le service auquel le salarié protégé, en fait, est rattaché. Donc ça, c'est à titre exceptionnel et dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2020. Voilà, mais on a l'ordonnance qui est parfaitement claire. On n'a pas besoin de l'accord du salarié protégé, pardon, dans ce cadre-là, des circonstances exceptionnelles pour le Covid-19.
Très bien, merci. Alors ensuite, se posent des problèmes par rapport à la rémunération de leurs heures de délégation et sur même la pose de ces heures de délégation. Est-ce qu'ils peuvent les poser en dehors du temps de travail prévu par l'activité partielle et comment sont-elles rémunérées?
Alors, il faut d'abord rappeler que l'activité partielle, même si ça suspend le contrat de travail, ça ne suspend en aucun cas le mandat représentatif. Donc, ça veut dire que les élus peuvent exercer, en fait, tout à fait normalement leur mandat et poser, en fait, enfin, prendre leurs heures de délégation à n'importe quel moment, soit quand ils travaillent, soit en dehors de leurs heures de travail pour les heures, entre guillemets, chômées, en fait, hein. Donc, vous avez deux cas. Le premier cas, en fait, les heures de délégation, elles sont effectuées pendant le temps de travail habituel. Bon, bah, il n'y a pas de problème dans le sens où elles doivent être rémunérées de manière tout à fait classique et normale. En revanche, dans un second cas, si les heures de délégation, en fait, elles sont posées pendant l'activité partielle, donc pendant les heures chômées, il en a la difficulté, l'élu, hein, parce qu'il exerce son mandat à ce moment-là. Donc, il peut le faire hors son temps de travail, pendant l'activité partielle. Mais à ce moment-là, les allocations doivent être payées sur la base de l'allocation, de l'indemnité d'activité partielle, et non sur le salaire habituel. Alors, il n'y a rien ici, je dirais, de discriminatoire, puisqu'en fait, c'est le fait d'être en activité partielle qui cause en fait la perte de rémunération. Ça n'est pas du tout lié à l'exercice du mandat. Alors juste, je précise quand même que ça, c'est la solution qui ressort en doctrine et du bon sens, je dirais, des textes, mais il n'y a quand même pas de jurisprudence précise sur ce point-là. Mais je raisonne aussi par rapport, je fais une analogie, même si on en parlera plus tard, mais des salariés qui sont en arrêt maladie et qui ont un maintien de salaire de l'employeur, ils ne peuvent pas, du fait du maintien de salaire de l'employeur, avoir plus que la somme à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été en activité partielle. C'est un petit peu la même chose là pour l'élu qui est en activité partielle, mais qui fait des heures de délégation. À ce moment-là, on le rémunère au maximum, au plafond qu'il aurait en fait obtenu s'il n'avait pas exercé ses heures de délégation et qu'il était simplement en chômage partiel.
Très bien, merci, c'est très clair. Donc, on va justement passer à la partie temps de travail et rémunération, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, notamment sur comment est calculée l'indemnisation d'activité partielle pour un salarié qui aurait signé un contrat de travail qui lui prévoit, enfin, qui prévoit un temps de travail à 180 heures mensuelles. Est-ce qu'on le calcule sur la base des 180 heures mentionnées dans son contrat de travail ou sur la base du temps légal qui est de 151 h 67 pour être précise?
Alors, le nombre, en fait, ça c'est prévu par le Code du travail hein, depuis longtemps, ça n'est pas une nouveauté. Mais en fait, le nombre d'heures indemnisables, il est plafonné en fait à 35 heures. Donc, si vous avez une durée moindre que la durée légale du travail, 35 heures, évidemment, ce sera moins de 35 heures, mais le maximum est 35 heures. Donc, 151 heures, 67 sur le mois. En revanche, hein, les heures supplémentaires doivent normalement être prise en compte dans le calcul du taux horaire de référence. Car en fait, la rémunération à retenir pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle, en fait, c'est l'indemnité qui sert à calculer en fait, l'indemnité de congé payé suivant la règle du maintien de salaire qui est ramenée à un taux horaire. Donc, si je résume, parce que comme ça peut paraître très compliqué, on prend le salaire en fait mensuel qu'on divise par 180 heures à ce moment-là, qui nous donne un taux horaire et qu'on multiplie en fait par 151 h 67 si évidemment le salarié est en activité partielle totale. Donc en fait le taux horaire, il reflète, il prend en compte les heures supplémentaires. En revanche, vous serez indemnisé que sur la base des 151 h 67. Mais il y a un petit bémol à cela parce que ça, c'est les textes, hein. Donc les textes, ils n'ont pas changé, ils sont comme ça. En revanche, et on a été plusieurs confrères à avoir été assez étonnés par cette démarche-là, mais dans le fameux questionnaire questions-réponses du ministère du Travail, en page 23, il est apparu le 10 avril dernier qu'en fait, le ministère du Travail excluait les heures supplémentaires du calcul du taux horaire. Donc, en fait, on ramenait tout à 151 h 67. Mais ce document-là, il n'a aucune valeur juridique, hein. Enfin, je veux pas, pas faire insulte au ministère du Travail que de le dire, mais il n'a aucune valeur juridique. Donc, moi, le conseil que je donne, c'est quand même d'appliquer les textes, de continuer à appliquer les textes, hein, tout bêtement. Parce que pour le coup, on a une salve de décrets, d'ordonnances, etc. Mais ils n'ont aucunement changé la méthode de calcul. Donc ça, depuis 2013, hein, on applique la méthode en fait de l'indemnité de congé payé. Là, tout d'un coup, c'est pas, à mon avis, hein, et ça ce sera source de contentieux parce que je pense qu'il y a plusieurs employeurs qui vont appliquer en fait, le questionnaire, les questions-réponses du ministère du Travail, mais devant un juge, encore une fois, ça n'a aucune valeur juridique, hein. Donc, moi, vraiment, j'appliquerai les textes et je continuerai à prendre en compte, en fait, eh bien, les 180 heures, enfin, les heures supplémentaires, ce qu'on appelle structurelles, qui sont effectuées chaque mois, en fait, dans le calcul, du taux horaire. Et j'ajoute quand même, parce que ça, c'est quand même très important, c'est que, quel que soit le point, hein, d'ailleurs, hein, de manière générale, mais il faut quand même avoir un réflexe, c'est toujours aller voir la convention collective ou l'accord d'entreprise.
Oui,
Parce
ça c'est
que,
évident.
Voilà, c'est évident, mais il faut quand même le rappeler parce qu'on peut
Tout à fait.
l'oublier pour l'activité partielle, mais il peut y avoir des dispositions sur le chômage partiel ou activité partielle, hein, ça dépend des, puisque maintenant ça s'appelle activité partielle, qui peut prévoir, la convention collective ou l'accord d'entreprise peut prévoir une indemnisation complémentaire. C'est-à-dire qu'elle peut prévoir, moi j'ai vu ça par exemple dans la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'événement, donc pour ceux qui travaillent dans l'événementiel notamment. Qui prévoit en fait un maintien de salaire à 100% pour, alors pas pour tous les salariés, mais pour certains salariés, notamment les forfaits jours. Donc eux, c'est 100% en fait. Donc s'il y a des heures supplémentaires, eh ben, on applique le 100%. Mais de toute façon, derrière, l'employeur, lui, n'aura que l'allocation calculée sur les 70% du brut. Voilà.
Très bien. Et justement, vous introduisez la question suivante
Oui.
qui concernait justement les forfaits jours. Et je vais y ajouter les VRP multicartes. Comment ça se passe pour calculer leurs indemnités et est-ce qu'ils peuvent être intégrés à ce dispositif ou pas?
Alors oui, alors que ce soit les forfaits jours ou les VRP multicartes, ils sont éligibles au dispositif de l'activité partielle. Donc il n'y a pas de difficulté. Alors pour les forfaits jours, c'est l'ordonnance du 25 mars 2020 qui le prévoit et qui a élargi le dispositif, puisqu'avant les forfaits jours, c'était que s'il y avait une fermeture en fait de l'entreprise ou l'établissement. Maintenant, c'est aussi quand il y a une réduction d'horaire. Donc il n'y a pas de difficulté pour les forfaits jours. Alors maintenant, pour la détermination en fait du nombre d'heures qui sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de l'activité partielle, on doit convertir en fait les heures en heures, pardon, le nombre de jours qui sont affectés par l'activité partielle. Et là, donc, un décret qui est du 16 avril 2020, qui a été publié ce matin au Journal officiel, donc qui est applicable et qui nous dit comment faire. Bon, il n'y a pas trop de surprises, on s'en doutait, mais c'est quand même bien que ce soit écrit maintenant. Donc, une journée non travaillée pour un forfait jour, donc en activité partielle, ça vaut 7 heures chômées. Une demi-journée, c'est 3 h 30. Une semaine entière chômée, c'est 35 heures non travaillées, en fait. C'est pour calculer l'indemnité d'activité partielle. Alors, on nous dit quand même aussi, ça, et ça, c'est dans le décret, hein, que pour les jours de congés payés, de repos qui seraient pris et les jours fériés qui sont non travaillés, on doit les déduire, en fait. On les convertit en heures, hein, selon la même méthode, et on doit les déduire des heures chômées, puisqu'en effet, là, c'est l'employeur qui les paie à 100%. Il n'y a pas de diminution, hein, de la rémunération. Ça doit être payé à 100% et ça ne donne pas le droit, du coup, en parallèle, à l'allocation, en fait, enfin, l'indemnité de l'État derrière. Donc, on doit décompter les jours de repos, les jours de congés payés pris. Et les jours fériés non travaillés de décompte, enfin, de l'indemnité d'activité partielle. Donc ça, c'est pour
Très bien.
les jours. J'espère que c'est clair, parce que
Oui, c'est assez complexe et mais vous avez été très clair dans vos réponses en tout cas. Merci. Et on
donc pour les
reparlera
VRP.
après des RTT et des congés également, on développera un petit peu plus.
Oui, voilà, on y reviendra parce qu'en fait, c'est le même raisonnement. Mais il faut, voilà, c'est-à-dire qu'il faudra quand même, même pour les forfaits jours, en fait, sortir du calcul eh bien, les jours de repos, les jours fériés non travaillés et les RTT pris par le salarié. Voilà. Donc, pour les VRP multicartes, c'était le second volet. Donc, ils sont également éligibles à l'activité partielle. Également, ils sont également concernés par le décret qui a été publié ce matin au Journal officiel. Et alors là, en effet, parce qu'il y avait une grosse interrogation sur comment calculer l'indemnité d'activité partielle notamment pour les VRP multicartes, qui ont des commissions, etc. Et donc là, le décret nous dit que le salaire de référence, donc pour calculer l'indemnité d'activité partielle, c'est en fait la moyenne des éléments de rémunération variable. S'il n'y a que du variable, on prend évidemment que le variable. S'il y a fixe variable, on prend fixe plus variable. Donc cette moyenne en fait des éléments de rémunération des 12 derniers mois qui précèdent le placement en activité partielle. D'accord? Si vous avez été embauché il y a moins de 12 mois, on prend à ce moment-là l'intégralité des mois travaillés, hein, avant le placement en activité partielle. On doit déduire quand même du salaire de référence la part qui correspond aux frais professionnels. Donc ça, c'est important de le dire, et aussi à tout ce qui n'est pas affecté en fait par une baisse d'activité et qui sont alloués en fait à l'année. Voilà. Mais on prend sinon la rémunération variable donc des 12 mois qui précèdent le placement en activité partielle.
Très bien, donc ça introduit là encore la question qui suit sur les primes, enfin ouais. Les différents éléments de salaire qui rentrent dans la base de calcul de cette indemnisation d'activité partielle pour les salariés. Est-ce que les variables, les commissions, les variables sur objectifs rentrent bien dans le calcul de cette indemnisation pour les salariés?
Alors, la rémunération à retenir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sert en fait d'assiette de calcul à l'indemnité, eh bien, c'est l'indemnité, le congé payé, en fait, qui, suivant la règle du maintien de salaire. Donc, ça veut dire qu'on va prendre en compte, évidemment, le salaire brut, les avantages en nature aussi, faut l'indiquer, faut le préciser, et les primes et indemnités qui sont versées en complément, en fait, du salaire, et qui ne sont pas, je dirais, exceptionnelles. Donc, on inclut la prime d'ancienneté, prime d'assiduité, les astreintes, les commissions, les primes sur objectif, et on exclut en revanche les primes de fin d'année, intéressement, 13e mois, par exemple. Alors, pour le variable ou la prime sur objectif, vous avez deux méthodes, en fait, possibles pour le calcul. C'est-à-dire que soit vous prenez la part variable, parce que ça dépend aussi si la prime sur objectif, elle est payée chaque mois ou si elle est payée, par exemple, deux fois dans l'année. Donc, si elle est payée au moins le mois, à ce moment-là, on prend la part du variable de la prime sur objectif qui vous a été versée le mois avant, en fait, le placement en activité partielle. En revanche, si ça n'est pas le cas, on fait une moyenne des 12 mois précédents, le placement en activité partielle. Et à ce moment-là, vous c'est pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'activité partielle.
Très bien. Alors, parlons maintenant des arrêts maladie et du chômage partiel. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur les salariés qui auraient été en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans. Ce qui est prévu dans le dispositif COVID-19 actuel. Est-ce qu'un employeur peut exiger qu'un salarié qui a ce type d'arrêt de travail bascule en activité partielle avec l'intégralité de son équipe?
Alors, en fait, il faut distinguer deux choses, deux situations. Celle dans laquelle en fait l'entreprise ou le service auquel est rattaché le salarié est totalement fermé, interrompu, ou alors s'il y a une activité réduite au sein du service dans le cadre de l'activité partielle. Alors, si vous êtes dans le premier cas, c'est-à-dire qu'il y a une fermeture de l'entreprise ou du service dans lequel vous travaillez, c'est-à-dire personne n'y travaille. À ce moment-là, comme en fait la justification de l'arrêt, c'est en fait d'indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail parce que, enfin, pour des mesures de protection, soit parce qu'en effet, il doit garder des enfants, il doit garder son enfant. Et donc, le but, évidemment, c'est qu'il voilà, il peut pas travailler, donc il doit être aussi protégé et doit rester chez lui. À ce moment-là, en fait, hein, cet arrêt de travail n'a plus lieu d'être, il n'a plus d'objet, puisque là, le service ou l'entreprise est totalement fermée. Donc, on passe, vous passez, en fait, enfin, le salarié passe en activité partielle également. Donc, l'arrêt peut prendre automatiquement fin avec le passage, en fait, en activité partielle du service, parce que, je le répète, hein, c'est une activité partielle totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de travail. L'employeur peut choisir aussi d'aller au terme en fait, hein, de l'arrêt, de placer le salarié à la fin de l'arrêt en activité partielle. Si en revanche, on est dans le second cas, il y a une réduction d'activité au sein de votre service, c'est-à-dire qu'il continue à tourner peu, mais à tourner. À ce moment-là, il n'est pas possible de cumuler sur une même période activité partielle et les indemnités de la sécurité sociale. Donc l'employeur ne peut pas placer le salarié en activité partielle pour réduction d'horaire si hein, il y a un arrêt pour garde d'enfant qui est en cours. Ça, c'est pas possible.
Très bien, merci beaucoup. Et quand il s'agit d'un salarié qui est en arrêt maladie, c'est la même chose?
Alors, c'est-à-dire si donc vous êtes en activité partielle et vous tombez malade, à ce moment-là, le bénéfice en fait du dispositif de l'activité partielle s'interrompt pendant la durée de l'arrêt. D'accord? Donc, c'est votre arrêt maladie qui prévaut. D'accord? Vous allez percevoir les indemnités de la sécurité sociale sans délai de carence. Et le complément employeur sans condition d'ancienneté et sans carence, ça vient aussi d'un décret qui est tombé ce matin, hein, donc il n'y a plus de délai de carence non plus, en fait, pour le complément de l'employeur. En revanche, vous ne pouvez pas percevoir, comme je vous le disais tout à l'heure, une rémunération supérieure à celle que perçoivent vos collègues, en fait, alors qu'ils sont en activité partielle et qu'ils sont indemnisés à 70%. Donc, par exemple, si vous avez un maintien de salaire à 90%, eh bien, vous ne pourrez avoir, dans les faits, puisque vous êtes en activité partielle, enfin, le service est en activité partielle également, vous aurez un maintien de salaire qu'à hauteur de 70%. Voilà, ça ressort de la jurisprudence, hein, là-dessus.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'accélérer un peu parce que je vois l'heure qui tourne et on a
Oui.
encore deux, trois sujets à voir. D'abord, donc, les congés payés, RTT, jours fériés. Là, on arrive au mois de mai. Les jours fériés, il y en a beaucoup sur le mois. Sont-ils rémunérés à 100% par l'employeur et non pris en charge par le chômage partiel? Y a-t-il des différences si le jour férié est travaillé ou pas?
Alors oui, il faut bien distinguer si s'il s'agit d'un jour travaillé ou chômé dans l'entreprise. Premier réflexe, encore une fois là-dessus, c'est aller consulter la convention collective ou l'accord d'entreprise qui fixe la liste en fait des jours fériés chômés. D'accord? Et donc ensuite, si c'est un jour férié chômé, il n'y a que le 1er mai, hein, sinon qui est obligatoirement un jour férié chômé. D'accord? Donc si vous êtes dans le cas d'un jour férié chômé, ils ne doivent pas entraîner en fait une perte de rémunération. Ça sort du code du travail. Donc c'est une règle d'ordre public. Donc l'administration en a déduit que l'employeur doit les rémunérer à 100%. Donc ils ne peuvent pas être indemnisés dans le cadre de l'activité partielle. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes en période d'activité partielle, mais qu'il y a un jour férié, bah, comme les prochains jours qui arrivent, qui tombent à ce moment-là, et ben ce jour férié-là, il ne pourra pas faire l'objet non seulement d'une indemnité d'activité partielle, donc le salarié il sera rémunéré à 100% pour ce jour-là, si encore une fois c'est un jour férié chômé, et de l'autre côté, l'employeur ne pourra pas demander l'allocation d'activité partielle. Hein. Donc c'est 100% pour le salarié à la charge de l'employeur. En revanche, si c'est un jour férié qui n'est pas chômé, donc c'est-à-dire qui est travaillé, à ce moment-là, s'il est habituellement travaillé en effet dans l'entreprise et que vous êtes en activité partielle, à ce moment-là, il n'y a pas de rémunération au taux habituel. C'est l'activité partielle qui prend le pas. Et voilà. Donc, vous percevez à ce moment-là les 70% et l'employeur a l'allocation de l'autre côté en retour.
La fiche de paye du mois de mai va être encore simple à établir pour les
Très sympa.
employeurs et très simple à comprendre pour les salariés également. Y a-t-il acquisition de congés payés et de RTT en cas de chômage partiel? Là aussi, c'est une question
Ouais.
qui revient très régulièrement.
Alors, congé payé, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que même si vous êtes en activité partielle et que vous ne travaillez pas du tout, hein, vous n'êtes même pas en réduction d'horaire, même si vous ne travaillez pas du tout, il n'y a pas de difficulté, vous continuez à acquérir des congés payés. Donc ça, en revanche, pour les RTC, si vous n'effectuez aucune heure au-delà des 35 heures, ça ne donne pas droit au RTT. D'accord? Donc, on peut imaginer, par exemple, un salarié qui travaille à 169 heures, donc 39 heures par semaine, une semaine sur deux, par réduction d'horaire en activité partielle. Ben, la semaine où il travaillera, il fera ses 39 heures, là, il va acquérir ses RTT. Et la semaine où il travaillera pas du tout parce qu'en activité partielle, à ce moment-là, il ne va pas acquérir de RTT.
D'accord,
Voilà.
très bien. Donc, différenciation à faire entre les congés
Oui.
payés et les
Ouais, et
RTT.
les RTT, ouais.
Alors, ensuite, d'autres thématiques connexes. Le télétravail et l'activité partielle sont-ils compatibles?
Alors, c'est vrai qu'en fait, il y a eu une mauvaise communication, je pense,
On
de
est bien
la part.
d'accord.
C'est-à-dire que on ne peut pas cumuler sur une même heure de travail, évidemment. Enfin, c'est-à-dire qu'un salarié ne peut pas télétravailler et pour la même heure télétravailler, être au chômage partiel. Non, s'il télétravaille, il travaille. Donc, il n'y a pas de chômage partiel pour cette heure-là. En revanche, de manière plus globale, en fait, le télétravail n'est pas incompatible avec l'activité partielle. Par exemple, vous pouvez être en réduction d'horaire, mais pendant les heures où vous travaillez, vous pouvez très bien télétravailler. Donc, en fait, ce que ne veut pas le ministère du Travail, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est que l'employeur ne sollicite pas des allocations, en fait, pour les heures télétravaillées, parce que travailler. Et en fait, l'activité partielle, c'est simplement pour les heures chômées, totalement chômées, donc pas travaillées. Voilà, il faut être clair là-dessus.
Oui, et je rebondis justement là-dessus pour faire allusion à un email qu'on a reçu ce matin d'un salarié qui nous expliquait que tous ses collègues et lui-même s'étaient rendus au travail et que, enfin, depuis le début du mois d'avril, et que leur employeur leur avait signifié qu'ils étaient en activité partielle depuis le début du mois d'avril. Donc oui, votre employeur aurait dû vous avertir avant.
Ah oui.
Là, en cas de contrôle, il est probable qu'il ait des ennuis avec l'administration.
Ah bah oui, c'est sûr, hein. Ouais.
Autre sujet, donc les tickets restaurants. On a beaucoup de sujets là-dessus par rapport au tickets restaurants et l'activité partielle et aussi le télétravail. Il y a une vieille habitude qui consiste à dire que lorsqu'on travaille de chez soi, on n'a pas forcément accès au titre de ticket restaurant. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors non, c'est-à-dire qu'en fait, les tickets restaurants sont maintenus hein, pour les salariés qui sont en activité, c'est-à-dire en activité partielle qui travaillent sur site, et aussi pour les salariés qui sont en télétravail. En fait, on va simplement regarder si les conditions de travail sont identiques. Alors, je veux dire, évidemment, il y en a un qui est chez lui et l'autre qui n'est pas chez lui, mais on va regarder en fait les vacations, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est rappelé hein, sur le site de l'URSSAF, hein, la problématique des tickets restaurants. C'est-à-dire que si vous travaillez matin et après-midi, que vous travaillez sur site ou en télétravail, vous avez droit au ticket restaurant. Si en revanche, vous travaillez uniquement le matin ou uniquement l'après-midi, que vous soyez sur site ou en télétravail, là, pour le coup, vous n'avez plus le droit au ticket restaurant. Donc, en fait, on va regarder simplement les vacations, c'est-à-dire quand est-ce que vous travaillez, si c'est une demi-journée ou toute la journée, en résumé.
Très bien, c'est très
Mais
clair.
voilà,
Merci.
télétravail ou
Merci.
travail ticket restaurant.
Alors, il y a eu aussi beaucoup de communications contraires hein, sur les formations et l'activité partielle. Et là, une question bien précise d'un employeur qui se demande s'il peut mettre un salarié en formation via le FNE formation et percevoir les indemnisations relatives à son chômage partiel.
Alors oui. Oui, alors c'est une ordonnance du 27 mars 2020 qui prévoit bien qu'on peut mettre donc un salarié en formation dans le cadre du FNE formation. Alors je rappelle quand même qu'il faut l'accord écrit du salarié pour que ça se fasse. Donc l'employeur cumule en fait les avantages liés aux coûts pédagogiques qui lui sont remboursés et à l'indemnisation de l'activité au titre de l'activité partielle. En revanche, ce qui est important, c'est le taux, c'est-à-dire que c'est le taux de droit commun qui est appliqué, c'est 70% et non pas 100% comme on l'avait entendu
au départ.
Ouais, voilà. Donc d'accord. Maintenant, on est sur le taux de droit commun à 70%. Mais il y a bien que le cumul, autrement, sur le principe, il est possible. Il n'y a pas de difficulté.
Alors, une dernière question, parce qu'on a déjà débordé un petit peu, justement par rapport au recours possible de l'administration, et notamment a posteriori. Là, on est en phase de crise. Le chiffre d'affaires ne rentre plus. On place ses salariés en activité partielle. Mais que se passera-t-il si, à la fin de l'année, finalement, on a récupéré tout le retard sur le chiffre d'affaires? Est-ce que l'État ne pourrait pas demander un remboursement en disant, bon, bah, finalement, vous êtes rentré un petit peu dans vos frais, donc l'activité partielle, on vous la supprime?
Alors non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le dispositif d'activité partielle, l'éligibilité à ce dispositif-là, il se regarde par rapport à un instant T. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, donc encore une fois, qu'il faut bien motiver sa demande dès le départ et expliquer pourquoi et avoir les documents en cas de contrôle justement a posteriori. Il faudra quand même avoir les preuves des baisses de commandes, des difficultés d'approvisionnement, etc. Pour justifier de cela. Si après vous avez mis les bouchées doubles, etc., et que vous avez réussi à vous en sortir et finalement à reconstituer à peu près votre chiffre d'affaires de l'année d'avant, sans crise, je dirais bravo et tant mieux pour vous. Mais la directe, elle ne va pas pouvoir vous sanctionner là-dessus, parce que autrement, ce serait même un contresens par rapport à l'économie et à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Non, il s'agit d'aider les entreprises à l'instant T lorsqu'elles ont des difficultés à l'instant T. Donc, on ne va pas regarder ensuite, dans un an, finalement, si elles s'en sont sorties ou pas. Voilà. Donc, non, là-dessus, à mon sens, il n'y a pas de difficulté. Hein.
Très bien, merci beaucoup. Donc là, on a déjà débordé un petit peu du temps imparti. J'espère que ce format vous aura plu et que vous avez eu réponse à bon nombre de vos questions. Et je sais qu'elles sont très nombreuses, j'en ai vu beaucoup passer sur l'écran. Donc n'hésitez pas pour des questions un peu plus précises qui concernent une convention collective plutôt qu'une autre ou des calculs bien spécifiques à contacter Maître Arnaud. Vous avez donc toujours ses coordonnées à l'écran. Nous avons également mis en place chez Jury Travail une ligne solidaire avec des juristes qui vous répondent au téléphone. Donc, vous pouvez également les contacter pour des questions un peu moins pointues, plus généralistes. Et pour la suite, il y aura très vraisemblablement d'autres webconférences à venir. Donc, pour vous tenir informés, n'hésitez pas à consulter nos forums. Une collègue est en train de vous donner les adresses mail, enfin les adresses internet, pardon, de ces forums sur le chat. N'hésitez pas également à vous inscrire à nos newsletters. On vous tiendra informés. Bien évidemment par newsletter des futurs webinars. Notre page coronavirus les mentionnera également. Et pour les élus, je vous rappelle également que deux groupes privés ont été créés sur Facebook et sur LinkedIn pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Il me reste donc à vous remercier très chaleureusement, Maître Arnaud, pour la clarté et la précision de vos réponses.
Je vous en prie, c'était un plaisir. Je mettrai, parce que c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre entre tous les textes, mais si, voilà, pour les personnes qui le souhaitent, je mettrai en ligne, en fait, via le site internet du cabinet, un tableau récapitulatif de tous les textes. Voilà, donc je le mettrai aussi sur la page de Jury Travail, il n'y a pas de difficulté, parce que parfois, voilà, sous la salve de textes, c'est compliqué de s'y retrouver. J'espère en tout cas avoir été clair, et je vous remercie également d'avoir fait appel à mes services.
Mais c'était un plaisir d'animer cette webconférence avec vous, maître. Et à très bientôt.
À très bientôt.
Bonne journée à tous. Au revoir.
Au revoir.